Vous pouvez retrouver cet échange en vidéo sur YouTube ou en podcast sur toutes les plateformes.
Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis content de vous accueillir parce qu'on lance en fait, avec cette première vidéo, on lance une nouvelle série. Une nouvelle série dont le principe, c'est de faire des regards croisés. On a d'inviter une petite bande d'experts du son qui ont cette dimension justement de sensibilité au travers de leur pratique de la musique, du son qui soit thérapeutique, créatif, artistique, spirituel peut-être. Et de vous partager un peu justement différentes visions, différentes approches de ce son pour vous nourrir, pour vous faire découvrir de nouvelles manières de faire, pour vous donner des clés pratiques parfois. Et pour lancer ce premier épisode, là, je suis vraiment très heureux d'accueillir Gauthier Aubé. Gauthier, merci d'accepter mon invitation. Tu te lances dans un truc sans trop savoir ce que c'est le premier épisode. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Merci d'avoir accepté de participer à cet épisode.
Eh ben oui, merci de m'inviter, de m'avoir proposé d'échanger là-dessus. Effectivement, on se lance là sur quelque chose où on verra ce qui va se dérouler pendant l'épisode et tout. Mais c'est vrai que c'est un peu une première pour moi de réfléchir là-dessus, mais avec grand plaisir hein, d'échanger là-dessus.
Et ben voilà, c'est un peu l'idée de ces regards croisés, tu vois, c'est d'avoir des discussions, et je serais presque tenté de dire des discussions comme on est capable d'avoir en off. Et quand on sort des discussions qu'on a en off, je me dis, ça c'est dommage, il y a plein de passages qui intéresseraient plein de gens. Mm-hmm. Donc l'idée c'est de discuter en fait et de filmer ces discussions parce qu'en fait il y a plein de bonnes clés à choper pour les gens qui vont nous regarder. Donc c'est un peu ça l'idée. Et là aujourd'hui, on lance le premier épisode sur le sujet de la musique intuitive. Comment la musique intuitive peut inspirer les gens, les aider à vivre mieux, à se transformer, à illuminer leur vie. Et on a différents sujets, je dirais, dans la trame. Je les mets un peu en nuages autour de nous. On verra dans quoi on va piocher. Mais il y a le sujet de la musique intuitive pour les gens qui ont peur de mal faire de la musique, qui ne savent pas faire de la musique, qui ont peur de mal faire de la musique, du coup, qui ne se lancent pas et qui passent à côté de ce plaisir de faire du son. Et la musique intuitive ou les instruments intuitifs peuvent être des bonnes clés pour dépasser et oser rentrer dans le son grâce à ça. Dans l'autre, les autres sujets qui planent autour, il y a la dimension de l'intuition, de la créativité. Je pense là, notamment pour les musiciens, pour le coup, qui ont une expérience académique et qui parfois ont un peu de mal à sortir des chemins bien balisés et de rentrer dans une dimension plus intuitive, plus spontanée de la musique. Donc la musique intuitive peut sans doute être une clé intéressante pour eux là-dessus. Et puis, je pense aussi à la musique intuitive dans sa dimension créative, mais dans le sens d'expression de soi, d'expression artistique. Et j'irais même jusqu'à dire de libération, dans la possibilité de mettre un peu plus de soi-même, de trouver un vecteur pour exprimer qui on est, ce qu'on a à l'intérieur, nos émotions, notre vision de la vie, etc. Et la musique intuitive peut aussi être une clé là-dedans. Donc on va essayer de discuter un peu de ces sujets-là et d'autres qui viendront au fur et à mesure. Et Gauthier, pour lancer un peu la discussion, justement, je voulais te lancer sur le sujet. Toi, tu es rentré dans la musique, quoi, par ce côté plutôt académique, scolaire de la musique ou par ce côté intuitif?
Non, je suis rentré par le côté intuitif. On aura l'occasion certainement pendant l'épisode d'essayer de clarifier un peu toutes ces notions parce que j'ai l'impression que c'est un peu un terme fourre-tout. Je me méfie quand même un peu du terme, même si je comprends tout à fait l'idée qu'il y a derrière. Et on a commencé à échanger un peu en off dessus, donc on pourra clarifier ça. En tout cas, la chose est sûre, c'est que moi je joue du didgeridoo et c'est oui, on peut classer le fait que j'ai commencé de manière complètement intuitive et que ce soit... c'est parce que le didgeridoo, c'est quand même un instrument particulier qui, à l'époque, il y a plus de 20 ans, n'était pas très très peu théorisé. Donc en fait, même si tu voulais le commencer de manière académique, tu pouvais pas, quoi. Je veux dire, c'était très 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 libre et puis à la fois pas du tout balisé. Donc c'était quand même un joyeux bordel, pour le dire un peu trivialement, mais c'était quand même voilà. Donc et puis le didgeridoo s'y prête plutôt bien, au moins au départ, je trouve. Donc voilà, moi j'ai pas du tout eu de parcours académique ou d'apprendre la musique à part au collège comme tout le monde avec cette fameuse et terrible flûte à bec, mais sinon le reste, tu vois.
Traumatisante, ouais. Traumatisante, c'est possible.
Traumatisante, ouais. C'est vrai, hein. Ouais.
Mais c'est vrai que toi, du coup, dans ton parcours, tu es parti du côté intuitif, mais j'ai l'impression que plus le temps passe, plus tu rentres dans cette musicalité. Et dans... Alors, tu as fait tout un gros travail, d'ailleurs, sur le didgeridoo pour structurer l'apprentissage l'apprentissage du didgeridoo, mais aussi pour développer ton côté musical.
Oui, c'est
Tu es
ça.
parti de l'intuitif, mais tu vas dans un truc qui est aujourd'hui beaucoup plus... je sais pas quel mot mettre dessus, académique, c'est pas tellement le bon terme, mais un truc plus fouillé de la musique, en tout cas.
Ben, en fait, mais après, je sais pas, tu pourras peut-être donner, toi, ta définition de la musique intuitive, ou tu vois ce que t'entends, parce que tu pratiques aussi, et du coup, je serais curieux de voir un peu ton approche, mais oui, bon, en tout cas, moi, depuis que j'ai commencé, et effectivement, je vais de plus en plus dans le côté conscient, j'allais dire, mais ça veut pas dire que quand on joue de manière intuitive, on n'est pas conscient de ce qui se passe. Mais force est de constater que quand même, quand on joue de manière intuitive, c'est-à-dire quand même, j'ai l'impression, mais tu peux vraiment rebondir sur ce que je dis, hein, on est vraiment là pour échanger. J'ai l'impression que quand on parle de manière intuitive, on dit jouer de manière intuitive, c'est en gros, on laisse le mental de côté. En gros, on se pose pas de questions, on y va, on laisse le flow, on laisse la musique. Il y a le concept de flow musical, mais qui est aussi le concept du flow chez les grands sportifs, par exemple, où en fait la musique coule à travers nous et puis en fait on se pose pas de questions, puis ça se fait tout seul. Il y a cette notion un peu de ça vient tout seul, ça s'exprime, et du coup. Ça, c'est, je trouve, génial, hein, pour le vivre régulièrement, c'est génial, c'est très agréable à vivre. Mais par contre, à l'inverse, je trouve que le côté justement conscient dans le sens, je mets de la conscience dans ce qui se passe dans mon corps, dans quelle note je vais jouer ou dans quel rythme je joue, des choses comme ça, bah, c'est pas mal parce que ça permet d'éclairer un peu ça, tu vois. Et donc, c'est se servir du mental de manière plus adaptée peut-être, je sais pas. C'est des questions, quoi. Je sais pas comment tu vois la chose, toi.
Ouais, c'est intéressant parce que effectivement, t'as pas mal d'idées différentes en fait dans ce que tu viens de soulever là. Et t'as le côté technique. Moi, c'est vrai que je dirais, j'opposerais le côté musique intuitive, qui est le côté être capable de faire du son sans avoir besoin de passer des années à travailler un instrument, de travailler une technique, une compréhension de la musique, etc. Avec effectivement ce cadre technique dans lequel on doit rentrer. Et c'est amusant parce que cette notion du mental... Non, tu parlais de la notion de la conscience, le fait d'être conscient. C'est quelque chose que moi, personnellement, j'associe plutôt avec la... en tout cas, je trouve que ça va très très bien avec la musique intuitive. Je dis ça dans le sens de, justement, à partir du moment où tu pars sur quelque chose où tu te préoccupes pas de la technique, parce qu'il faut, je pense à des instruments intuitifs, tu vois, je sais pas, un bol chantant, par exemple, t'as aucune technique ou t'es vraiment au niveau 0,5 de la technique pour apprendre à faire sonner, bah, tu peux rentrer facilement, je trouve, dans une écoute de l'instrument, dans les sensations que l'instrument procure en toi, dans des émotions que ça vient révéler, dans des images que ça ouvre à l'intérieur de ta conscience. Et je trouve, à titre personnel, que ce côté conscience dans le son est plus rapide, en tout cas, à atteindre dans le côté musique intuitive que dans la musique plus structurée, qui demande déjà d'avoir une bonne maîtrise technique avant de pouvoir s'autoriser à rentrer dans ce côté plus créatif, plus personnel, en tout cas.
Ben c'est là que ça commence à être intéressant, c'est qu'en fait, toi, t'associes le côté musique intuitive avec le côté conscience, ce qui se passe dans mon corps, ce qui, tu vois, l'écoute des émotions, tout ça. Et pour moi, ça, c'est vraiment deux travails différents, mais c'est pour ça que c'est un terme un peu fourre-tout. C'est que c'est un terme où c'est vrai et à la fois, si je demande quoi... comment expliquer ça? Je trouve que le fait de... c'est pas dissocier ça, par exemple, au didgeridoo, si on apprend telle ou telle technique, on peut tout à fait être aussi faire tout ce travail de conscience de qu'est-ce que ça fait dans mon corps, de quelles sensations j'ai, de quelle tension ça me donne, tu vois. Là j'apprends je parle du pur apprentissage technique, mais c'est volontaire, c'est parce qu'en fait, je sais que derrière, et peut-être les gens qui nous écoutent, alors je sais pas, je me projette sur vous, auditeurs et auditrices, mais J'ai l'impression que souvent, en fait, on se dit intuitif versus technique. Et c'est toujours un peu... Dans Didgeridoo, il y a eu longtemps ce débat-là qui je crois, pour moi, est terminé depuis longtemps. C'est-à-dire que les deux se complètent et tout. Mais, et que donc, du coup... souvent dans le monde entre guillemets intuitif, en gros on se dit intuitif c'est mieux, technique c'est ennuyeux, tu vois, ou un truc un peu comme ça, quoi. Alors qu'en fait, et c'est ça que j'essaye de démonter, alors je vais peut-être un peu vite dans mon processus de pensée, mais c'est que je me dis qu'en fait les deux sont complémentaires et que les deux ben servent l'un sert l'autre, quoi, en fin de compte. Et que je trouve que par contre tout le travail d'écoute du corps, d'écoute de l'émotion, de... C'est presque encore un autre débat, tu vois, c'est qu'est-ce qu'on recherche dans la musique, qu'est-ce qu'on recherche dans le son, est-ce que finalement j'ai besoin de vivre quelque chose de fort en moi pour que, par exemple, les personnes qui m'écoutent, si je joue pour d'autres personnes, vivent aussi quelque chose de fort. Eh ben, c'est pas sûr. Si ça se trouve, en fait, je peux vivre un truc hyper froid en moi. Et que y a tout l'orchestre, tout le groupe, tout ça, qui sont hyper froid, hyper calé, bam, bam, bam. Et par contre, ça fait flamber complètement les émotions dans la salle, tu vois. Et du coup, c'est, moi, je trouve, c'est aussi qu'est-ce qu'on recherche là-dedans. Mais là, je pars un peu loin parce que je mets le postulat qu'on joue devant un public alors qu'on parle pas spécialement de ça.
Mais du coup, tu t'ouvres une nouvelle porte qui est hyper intéressante. C'est le côté, je pousse encore un peu plus loin la porte dans le côté thérapeutique de la musique. Tu vois à quel point ça peut nous aider à libérer, bah, je parlais de se libérer soi-même, mais il y a aussi la connexion avec l'autre dans ce qu'on joue et à quel point ça va résonner chez l'autre et ça va aider, ça va permettre à l'autre de se découvrir différemment grâce à ce qu'on joue. Peut-être qu'on reviendra là-dessus un peu plus tard si on peut, c'est évidemment un sujet passionnant. J'ai l'impression, moi, que cette musique intuitive, c'est une bonne porte d'entrée. D'ailleurs, ça se voit dans ton parcours, mais à la limite, c'est vrai aussi dans mon parcours. Et là, je vais faire juste un petit parallèle avec le côté... on parle de musique, mais il y a aussi tout le travail de voix, de chant intuitif. Moi, je joue beaucoup avec le côté chant des voyelles, chant diphonique, qui ont vraiment cette approche, en fait, techniquement. Alors, le chant diphonique, il y a un peu de technique de base, mais une fois qu'on a acquis la technique de base, assez rapidement, la pratique, elle devient spontanée. Et on va vraiment jouer à se laisser porter par des vagues de sons, à rentrer dans une écoute différente du son. Il y a un côté très méditatif, en fait, dedans. J'ai l'impression que ce travail-là est un travail, moi à titre personnel en tout cas, pour parler de mon expérience, c'est un travail qui m'a beaucoup décomplexé, en fait, du travail de voix, du travail d'oreille, du travail d'être capable de sortir un son de ma voix, d'être capable de sortir un son avec un instrument. Et moi, j'ai grandi loin de la musique, loin du chant, loin des instruments. Et j'avais toujours cette image un peu, c'est réservé aux gens qui savent faire, quoi. Si tu commences à toucher, bah, assez vite, tu fais n'importe quoi, ça ressemble à rien. Tu te mets à chanter, tu chantes faux, enfin, toutes les injonctions qu'on a sur ce travail-là, en fait. Mm-hmm. Et dans le côté intuitif, moi, je vois aussi tout le côté... ça te permet de mettre un doigt dedans facilement. Et après, effectivement, en fait, je t'ai déjà entendu parler de ça, de ce côté, dans le didgeridoo, si tu restes sur le côté intuitif, tu te rends compte assez vite que tu tournes en rond, que tu fais toujours la même chose, en fait, que t'évolues assez peu. Et c'est vrai aussi avec le travail de voix. T'as besoin ensuite de t'ouvrir à d'autres choses, d'aller découvrir d'autres techniques, d'aller découvrir d'autres manières de faire. Et en fait, progressivement, tu t'apprends à te servir de l'instrument voix ou de l'instrument ou d'autres instruments, mais il a fallu un point d'entrée. Et quand ton point d'entrée, ça n'a pas été le côté le conservatoire ou les cours de musique, je trouve que pour nous adultes notamment, c'est très facile et très agréable de rentrer dans ce côté décomplexant de la musique intuitive.
Oui, bien sûr, ouais. Mais enfin, quand tu parlais, là, je me disais, mais en fin de compte, on est en train de parler d'une forme de pédagogie. Actuellement, quand on imagine musique, quoi, actuellement, je veux classer personne dans une case ou je sais pas quoi, mais la plupart du temps, quand une personne qui n'est pas musicienne réfléchit à la musique et se dit « j'aimerais bien apprendre la musique », le premier réflexe, c'est le solfège, c'est des trucs comme ça, c'est de dire « oui, mais j'ai pas envie d'apprendre le solfège ». En fait, c'est toute cette pédagogie qui est lié très à l'académique, d'apprendre à lire et écrire.
Très scolaire,
ouais. Voilà, très scolaire et tout. Cette pédagogie-là, elle évolue quand même, elle a beaucoup, beaucoup évolué quand même. Bon, il se trouve que le solfège est quand même hyper utile pour reproduire des œuvres et quand on apprend la musique. Mais bon, il y a aussi l'ado qui apprend la guitare dans sa chambre et puis qui reproduit les riffs de n'importe quoi, ou de basse, ou peu importe, et puis qui apprend un peu comme ça sur le tas. Et du coup, moi, je trouve que c'est en fait... Toute la question, c'est de savoir quelle forme de pédagogie me convient. Et c'est vrai que la pédagogie, j'allais dire l'ancienne pédagogie, parce que quand même, il y a beaucoup de profs qui se bougent pour un peu modifier ça, c'est-à-dire de ne pas toucher la trompette pendant un an, tu bosses juste le solfège et puis tu as 6 ans, et puis en fait, tu es là, ben non, mais moi, moi, en fait, je découvre le monde et je voulais faire un peu de son avec la trompette. Bon, toute cette pédagogie-là, j'ai l'impression qu'elle est un peu... qu'elle est peut-être un peu dépassée et puis que et ce qui fait que du coup en contre-pied de ça ben on parle de musique intuitive ou tout ça mais en fait moi je trouve que ce qui est important c'est une pédagogie qui soit qui amène et je veux pas du tout faire de la pub pour moi mon approche ou ton approche Olivier tout ça mais c'est quand même moi j'ai quand même dédié ma vie à ça c'est bon c'est que j'ai quand même réfléchi beaucoup à la pédagogie et tout ben je trouve qu'en fait tout le but c'est de réussir à se dire en fait comment est-ce qu'on va réussir à découvrir un monde donné d'un instrument, de la voix, du didgeridoo, du violon, du piano, peu importe. Mais ce monde-là, comment est-ce qu'on va réussir à le découvrir à son rythme, sans que ce soit trop lourd, c'est-à-dire que en gros, qu'on ait la sensation d'apprendre des choses et puis de découvrir des choses sans que ça nous coûte trop, même si ça nous coûte un peu d'effort, parce qu'on sait bien tous que si on reste toute la journée dans le canapé, en fait, la journée n'est pas folle, quoi. C'est l'effort de sortir et d'aller à la découverte, bah c'est chouette, quoi. Et du coup, je trouve, c'est surtout comment est-ce qu'on peut réussir à enseigner de notre côté ou à apprendre du côté de la personne qui apprend en mettant en place des mécaniques qui sont de l'ordre du plaisir et de la découverte. Naturel, moi je parle de rythme naturel au didgeridoo, ouais. De jouer juste et de laisser venir le rythme naturel. Mais effectivement, si on reste que à ça, après on tourne en rond, donc faut réussir ensuite à passer des étapes, quoi. Mais
et je vais absolument entièrement dans ton sens. Je sais pas si tu connais un peu le travail d'Emmanuel Bigan. Il a fait tout un travail sur justement la neuroscience autour de la musique, etc. Il a écrit un bouquin dessus qui est vachement intéressant. Et le sujet du livre,
il s'appelle comment le livre tu te souviens, non?
Emmanuel Bigan, et le livre doit s'appeler. Je sais plus si c'est musique et neurosciences ou le cerveau, la musique, peut-être quelque chose comme ça. J'ai un doute sur le titre.
Ouais, okay.
Et le sujet, enfin le questionnement du livre, c'est de se dire, mais les plus vieux instruments de musique, enfin le plus vieil instrument de musique qu'on connaît, c'est une flûte qui avait été trouvée en Allemagne et qui doit avoir 40 000 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc on est vraiment à l'âge de pierre, quoi. Et la question qu'il posait, c'était aujourd'hui dans notre société, la musique c'est devenu un loisir qu'on va enseigner aux enfants une fois qu'on a eu le temps de faire du français, des maths, du sport, etc. S'il reste un peu de temps, on fait de la musique. Mais en fait, la question qu'il pose, c'est est-ce que pour nos ancêtres, enfin, pour quelle raison la musique a été un facteur d'adaptation, en fait? En quoi ça les a aidés à survivre dans le monde sauvage? À quoi ça les a aidés à se développer, à rester, à survivre et à créer des communautés, etc. Et du coup, il a fait tout un tas d'études, où il coagule des études sur le côté très intuitif. Alors, intuitif dans le sens de très naturel, de très instinctif, voilà, c'est le mot que je cherchais, en fait, des bébés qui sont déjà sensibles à la musique, qui sont déjà capables de reconnaître des différentes notes. Et puis, ils se rendent compte que l'utilisation de la musique, l'apprentissage de la musique, permet d'apprendre plus facilement à parler, à communiquer, à se comprendre, et que tout ça, en fait, crée une musique qui s'intègre dans la société, non pas dans ce côté, effectivement, aujourd'hui, on a une musique qui est très complexe, en fait, mais dans la musique de base, c'est-à-dire l'écoute des sons, l'association de sons, de rythmiques simples, etc., il y a déjà quelque chose qui s'opère de très bon pour le cerveau et de très bon pour l'intégration dans une communauté. Et ça repart, effectivement, exactement comme tu disais, de, en fait, laisser émerger cette musique qui est déjà là à l'intérieur et comment on fait pour lui redonner de la place et pour, en fait, la débarrasser un peu de toutes les... toutes les injonctions ou toutes les voilà toutes les couches de croyances qu'on a mis dessus. Et je trouve que là, t'as complètement raison, ton approche de, en fait, c'est une approche pédagogique, de non pas chercher à mettre des nouveaux trucs à l'intérieur, mais de repartir de ce qui est existant et de laisser ça s'exprimer et ensuite de développer, d'aller ouvrir, d'aller chercher, etc. Donc c'est deux approches de la musique différentes et t'as raison là-dessus, c'est de la pédagogie en fait.
Et puis, et je trouve qu'il y a un truc qui est assez important, et je le vois en stage avec mes élèves, que je salue si vous regardez ce podcast ou si vous écoutez, c'est qu'en fait en stage, quoi, c'est vraiment des pensées par ramification, parce qu'il y a vraiment, ça évoque beaucoup de choses quand même, ce que tu soulèves là. Mais c'est qu'en stage, par exemple, au didgeridoo, il y a différents souffles continus. Et puis pour certaines personnes, un souffle continu sera plus facile que pour d'autres. Quand bien même l'autre personne joue depuis 20 ans, le débutant ou la débutante va sortir un souffle continu naturellement au bout de 2 mois que la personne qui joue depuis 20 ans n'arrive pas à faire, quoi. Et en fait, il y a un côté comme ça où d'acceptation. Et puis évidemment, la personne qui joue depuis 20 ans dit « Moi, je veux faire ça !» Et souvent, le débutant ou la débutante qui sortait de souffle continu dit « Ouais, mais moi, ça me plaît pas trop, j'aimerais plutôt faire ça !» Et en fait, c'est de se rendre compte que par contre, si on suit un chemin qui nous est assez intuitif, instinctif, naturel, je ne sais pas quel terme employer, mais en tout cas quelque chose qui nous vient naturellement, eh ben, il faut accepter aussi que c'est son chemin. C'est-à-dire que c'est, eh ben oui, on va passer par là. Et puis en fait, grâce à ça qui nous est très naturel, eh ben on peut aller découvrir tel son, puis tel rythmique et tout. Mais par contre, que tel son ou telle respiration, ce sera plus tard ou ce sera peut-être jamais. Et ça, je trouve que c'est quand même pour le coup, là, je trouve que ça vaut le coup de le relier à la musique intuitive. C'est aussi le truc de... Je ne veux pas du tout me faire de donneur de leçons ou je ne sais pas quoi, mais c'est qu'en fait, c'est d'accepter aussi ce qui est ici et maintenant, de qui on est ici et maintenant. On est dans une société, c'est vrai, là, je pars dans les généralisations, mais quand même, qui veut un peu tout de suite, tout le temps. J'en fais partie, hein, je ne me mets pas à l'extérieur de ça. Et qu'on accumule un peu, on dit, mais je veux ça, puis je veux ça, puis je veux ça, puis je veux ça. Et puis en fait... au final, après, ça pose la question de, oui, OK, ben, on peut apprendre, par exemple, tel souffle, tel son, tout ça, mais... Pourquoi est-ce que tu joues du didgeridoo? Pourquoi est-ce que tu joues de la musique? Et moi, je trouve que le truc intuitif versus académique ou des choses comme ça, ça se pose aussi dans ce cadre-là de pourquoi on fait de la musique. Et effectivement, on peut très bien faire une rythmique au didgeridoo, mais ça se retrouve dans le tambour ou certainement dans le chant intuitif ou dans le chant diphonique. Je sais pas, je connais pas assez ça, mais j'imagine que oui. Quoi, dans le tambour, ça c'est certain, mais de reproduire une rythmique hyper simple, et là, c'est un travail sur soi, en gros. On va se reconnecter à quelque chose et tout. Versus la personne qui veut bosser un morceau pour monter un groupe et jouer sur scène. C'est, la démarche est absolument différente. Et donc, il y a...
La finalité est complètement différente.
La finalité, ouais, pardon, est complètement différente. Et donc, la démarche derrière va quand même être un peu différente, parce que si je joue que intuitif au didgeridoo, mais que par contre, avec mon groupe, on est en train d'enregistrer un album, bon, ben voilà, si moi j'y vois, moi je m'en fous de la structure. Je joue intuitif, les gars. Ils vont être là, bon, ma Gauthier, t'es sympa. Mais... Donc voilà, je trouve que ça, il y a aussi se poser la question de pourquoi. Et là, je m'adresse vraiment aux auditeurs, auditrices, de qu'est-ce qui vous motive à jouer ou à apprendre tel instrument. Ça paraît une question relativement simple, mais c'est quand même une question complexe. Je trouve que la réponse est très intime, quoi.
Absolument, très intéressant cette notion de finalité. Il y a, tu sais, dans le travail de voix, c'est j'ai tenté de dire, peut-être que c'est mon prisme qui me fait dire ça, mais que c'est encore plus vrai que l'instrument, tu sais, ce côté d'accepter ce qui sort. Parce que avec la voix, t'es tout de suite sur un truc hyper intime, en fait. Et ce qui sort ne correspond pas forcément à ce que t'aimerais entendre. Ce qui sort ne correspond pas forcément au canon de ce qui est attendu. Et donc c'est vrai qu'il y a un côté... Et c'est encore plus vrai quand tu passes l'étape d'enregistrer ta voix. Là, les premières... Mais c'est vrai aussi quand on fait ce genre d'exercice, là, où on parle devant une caméra. Quand tu réécoutes après, les premières fois, ça pique un peu, quoi. Et le chant fait ça. C'est clair qu'il y a tellement... On met tellement de soi, en fait, dans ce type d'expression que c'est un travail aussi d'apprentissage d'accepter et puis d'apprendre progressivement à aimer aussi ce qui sort de soi avec, avec ce que ça exprime, forcément, avec des forces et puis avec des fragilités. Et ça rentre, ça nous fait rentrer directement dans cette dimension très, bah, très humaine, en fait, tout simplement, de notre relation à nous-mêmes, de notre relation aux autres, de notre relation au monde dans lequel on est. Et effectivement, je mettrais ça dans, la musique intuitive. Cette notion effectivement de finalité qui est pas une recherche de performance, mais plutôt une recherche de compréhension, une recherche de connaissance de soi, une recherche de reliance à l'autre, de reliance au monde dans lequel on vit, etc. Et j'ai l'impression que la musique intuitive est un bon moyen de rentrer dans cette expression là.
C'est vrai, j'essaie toujours de tordre un peu le cou à la... aux cases, tu sais que même si je sais que dans ce que tu exprimes et tout, il n'y a pas forcément ça, mais c'est que je pense à certains débats que j'ai eu avec justement avec certains de mes élèves ou certaines de mes élèves dans les stages et tout ça, quoi, ou même il y a 15 ans dans le didgeridoo, ça se posait beaucoup la question. Parce qu'en fait, il y a un côté. C'est une vaste question, mais dans le didgeridoo, il y a 20 ans, 25 ans, moi j'ai commencé début des années 2000, en 2001-2002. Il y avait ce didgeridoo qui est arrivé en Europe dans les années... En gros, il a explosé dans le monde, quoi. Il s'est fait connaître vraiment dans le monde en 95 avec Jamiroquai qui a sorti son tube. Il y avait des didgeridoo de partout, tout ça. Moi, j'ai découvert ça seulement début des années 2000. Mais en fait, il y avait rien pour apprendre. Il y avait une petite méthode qui avait été écrite, en tout cas en français. Il y avait Alexandre Bartos qui avait écrit une méthode. Je dis pas que c'était rien, parce que c'était déjà du bon boulot pour l'époque, évidemment. Alexandre, si tu me regardes, je l'avais recroisé à la Réunion en plus. Il y avait Alexandre, et puis il y avait Paul Boucher qui avait aussi une autre méthode. Bref. Dont j'ai mangé le nom de l'auteur, je suis désolé pour lui, mais du coup voilà, il y avait ces deux méthodes là qui étaient assez simples, et sinon après c'était tu te débrouilles. Et en fin de compte, moi j'ai essayé de travailler au fait de justement mettre de la conscience, c'est pour ça que je disais ça, mettre de la conscience, parce qu'en fait à l'époque il y avait beaucoup de gens qui jouaient de manière comme ça, justement intuitive, sans se poser de questions. C'est pour ça que je disais que finalement ça, on se posait pas trop de questions, donc c'était plutôt dans cette vision là mais Il y a eu très rapidement le débat intuitif versus technique. En fait, je trouve qu'on peut... on peut allier les deux, c'est-à-dire qu'on peut allier l'observation de ce que ça nous fait, cette démarche d'écoute intérieure, cette démarche de donner du sens, tu vois, de prendre un temps pour soi, de se dire ok, je vais aller jouer pendant une demi-heure pour moi, ou je vais aller chanter pour moi, tout ça, cette démarche de sentir quelque chose qui se passe à l'intérieur, et à la fois aussi cette démarche d'aller dans l'apprentissage de l'instrument, quoi, tu vois, d'aller dans justement découvrir plus de techniques pour ensuite affiner le discours. Moi, je vois ça comme du vocabulaire, donc comme un enfant qui apprend à parler petit à petit. Au début, il commence avec quelques mots. Franchement, t'es à peu près dans le même cas que moi. Moi, j'ai une fille qui a 2 ans qui découvre tout le vocabulaire et tout le langage. Et en fait, je me dis, ouais, c'est génial d'apprendre comme un enfant. Parce qu'en fait, elle y va, quoi. Alors là, elle va te dire un mot qui n'a rien à voir, mais elle le fait. Ou alors, elle va te le dire, mais avec vraiment, il manque. Par exemple, elle dit didgeridoo. Alors, didgeridoo, elle dit sileidou, je ne sais pas comment elle le dit, mais elle y va. Et en fait, je trouve que si on peut rattacher ça au côté intuitif, c'est-à-dire l'apprentissage par l'expérience comme ça, je trouve ça génial, et ça touche ce que tu disais, c'est-à-dire que se laisser le droit à l'erreur, ou se laisser le droit à faire un peu l'opposé de ce qui est attendu, tout ça, quoi, comme un enfant, en fait. Un enfant s'en fiche complètement. Et par contre, à force de répéter, à force d'observer, à force de tester des trucs, ça finit par rentrer. Et je trouve que d'apprendre la musique comme un enfant apprend le langage, d'avoir ça en tête, je trouve ça assez génial. Et l'enfant va pas rester avec juste quelques mots de vocabulaire. Il va continuer à apprendre, apprendre. Et on apprend encore. Et je trouve que de se placer dans cette dynamique-là, d'apprentissage, et que, c'est vrai, vers 6-7 ans, par là, l'enfant, il y a plein de connexions qui se font dans le cerveau, ça rationalise beaucoup plus et tout ça. Bah, ouais, mais en même temps, ça lui permet aussi de comprendre d'autres choses sur le monde. Bah, dans la musique, ça peut être pareil. Ça peut être, on peut avoir une phase où on commence, tu vois, de manière complètement expérimentale comme ça. Et puis, à un moment, moi, je suis complètement là-dedans en ce moment. Ben, je rationalise beaucoup plus mon jeu, c'est-à-dire que je vais travailler plutôt avec un autre instrument pour voir le placement rythmique, voir comment se placent les respirations ou quoi. Tu vois, mettre beaucoup plus de conscience dans les mécaniques, tu vois. Et ce qui, au final,
ça se fait pas mal pour rebondir là-dessus par le fait de, tu vois, tu prends l'exemple des enfants qui apprennent à parler, comment ils apprennent à parler, t'as effectivement l'école qui va leur apprendre des mots, comment ça s'écrit, etc. Mais c'est d'abord en se confrontant aux gens autour d'eux, en écoutant, en essayant de reproduire, en échangeant, en se trompant 25 fois sur le mot jusqu'à ce qu'ils finissent par rentrer. Et dans la musique, il y a la même chose. Il y a cette notion de, effectivement, tu peux commencer tout seul. Alors le didgeridoo s'y prête particulièrement bien, t'as un côté très spontané dans le jeu du didgeridoo, dans le travail de voix, c'est la même chose. Je ne sais pas si ça s'y prête aussi facilement sur des instruments plus classiques comme le piano, le violon, etc. Peut-être que ça s'y prête aussi. Tu as certainement des points d'entrée qui sont un peu plus faciles pour rentrer dans le côté intuitif. Mais ensuite, tu as le fait de jouer avec d'autres, de chanter avec d'autres, de jouer, de collaborer avec des musiciens qui, eux, ont cette vision plus académique du truc, ont aussi cette technique qui va du coup donner envie d'aller s'approprier des choses, d'aller échanger, d'essayer de creuser un peu plus. Et ça, je trouve que le fait de rentrer dans cette dynamique d'échange et de participation et de pas rester justement soit que tout seul avec son instrument, soit que avec des gens qui ont exactement la même vision que nous, aide beaucoup pour aller pousser d'autres portes en fait sur notre jeu musical.
Ouais, moi je trouve que c'est qu'est-ce qui crée l'enthousiasme. C'est Ama que j'aime particulièrement, donc c'est une femme indienne qui prend les gens dans ses bras, pour résumer de manière très succinctement Ama, parce qu'elle fait beaucoup plus, mais en gros elle dit une phrase qui, elle dit, là où il y a de l'enthousiasme, il n'y a pas d'effort. Et ben ça, je trouve que c'est ça résume assez bien l'apprentissage de la musique, ou la vie de manière générale. Et je trouve que ça vaut le coup dans l'apprentissage de... C'est ça, c'est de développer son enthousiasme et de. Je le vois par exemple avec le didgeridoo. En fait, c'est par exemple, il y a des élèves qui prennent plaisir à répéter un même truc, une même rythmique par exemple, et qui se, par peur de tourner en rond, pas parce qu'ils s'ennuient à tourner en rond, ils se disent, ah, faudrait que j'apprenne autre chose, parce que sinon après je vais jouer tout le temps la même chose. Mais en fait, ça, moi j'encourage 1000 fois à répéter, mais alors vraiment des heures et des heures. Si vous aimez jouer juste avec votre didgeridoo, avec un tambour, avec la voix, et faire juste 2 notes, mais c'est super de se répéter, mais pendant 20 ans s'il le faut, c'est pas grave en fait. ça veut dire que la répétition, elle l'ancre vraiment dans le corps, elle inscrit vraiment au plus profond des cellules ce pattern-là ou ces notes-là. Je trouve ça vraiment génial. C'est que ça rejoint le fait de réussir à se débarrasser de l'idée qu'il faudrait avoir tout vu, qu'il faudrait tout découvrir, qu'il faudrait voyager partout dans le monde et partout...
Être exhaustif, absolument.
Je trouve ça hyper important quand même. Moi, je trouve qu'en plus, on vit à une époque qui est quand même chaque époque a eu son lot de défis, hein. C'est sûr, on vit quand même dans une époque qui est un peu particulière, je trouve, au vu des actualités. Et je me dis, ouais, il est vraiment primordial, je crois, à l'heure actuelle, de se laisser vivre, mais vivre aussi, quoi. Là, on parle de musique, donc si on se concentre sur la musique, c'est de se laisser vivre dans ce qu'on fait dans la musique, et de se foutre la paix, quoi. C'est-à-dire que vraiment... de prendre son instrument et de se faire plaisir. Et si je trouve l'appellation de la musique intuitive peut résumer ça, bah super, allons-y alors, hein, appelons ça musique intuitive. Mais tu vois, je veux dire, on est quand même à une époque où on a du mal, quoi. Je trouve ça chouette, en tout cas, de retrouver son centre et de se dire que quand on prend l'instrument, on prend un temps pour soi, et puis on... Peu importe, en fait, c'est ça que je voulais dire, tu vois. Peu importe si on joue de la technique, si tout ça, si on prend ce temps-là, et que et que c'est un moment précieux pour soi, je trouve que c'est vraiment de loin le plus important. Et là, ça transcende le côté intuitif, technique, je sais pas quoi, tu vois.
Ouais, absolument. Et c'est vrai que ça, c'est marrant quand tu racontes ça, ça fait écho avec la manière dont j'ai découvert, en fait, moi, le yoga du son. Je suis rentré dedans, où on m'a fait un jour écouter un CD d'un mec qui faisait des chants en tibétain. Et ça m'a tellement marqué, le mot que j'utilise tout le temps, c'est que ça m'a foudroyé, tu vois. J'ai vraiment eu l'impression de un truc qui se réveillait à l'intérieur, quoi. Et en fait, à tel point que la personne m'a donné le CD, je suis rentré chez moi avec. Mais à cette époque-là, l'idée même de chanter, c'était extrêmement farfelu dans ma tête, quoi. Mais quand même, avec le CD, j'essayais de reproduire ce que j'entendais dessus. Donc, je m'assurais qu'il y ait évidemment personne qui m'entende. Je partais au milieu des bois. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. Pendant 10 ans, je partais au milieu des bois, ou alors chez moi, je m'assurais qu'il n'y ait vraiment plus personne, etc. Et je chantais, je faisais vraiment n'importe quoi. J'étais vraiment dans vraiment le côté juste rentrer dans le fait de prendre plaisir à commencer à le faire vibrer ma voix et puis sentir en fait que ça me faisait du bien. Juste ça me faisait du bien. J'avais l'impression de me recentrer. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui se nourrissait, quoi, à l'intérieur de moi grâce à ça. Et au bout d'un moment, les expériences de vie, tout ça m'ont fait que m'ont aidé à franchir le pas, à me dire bon, faut quand même maintenant que j'aille apprendre ce truc là tu vois, que j'aille développer un peu, parce que je sens qu'il y a plein d'autres choses à découvrir. Mais pendant toutes ces années, et c'est parce qu'après moi, ma phase d'apprentissage du yoga du son, ça a été très court en fait, parce que c'est comme si tout était naturel. Je mets des guillemets.
C'est que t'avais pratiqué pendant 10 ans, quoi.
Et c'est ça. Et c'est comme si ça avait infusé pendant 10 ans. Tu sais, c'est le thé qui infuse dans les cellules pendant 10 ans. Donc, au moment où la personne, sans minimiser le travail de l'enseignant, mais entre guillemets, elle a eu juste à, tu vois, recadrer ce qui techniquement n'était pas complètement aligné. Et en fait, tout s'est exprimé beaucoup plus vite, avec tout de suite beaucoup de lumière, avec tout de suite beaucoup de couleurs. Parce que c'est là, depuis, en fait, je m'étais déjà approprié non pas la technique, mais le fond. Le cœur de la pratique, c'était déjà un truc avec lequel je vivais depuis longtemps. Et en fait, la technique est venue m'aider à exprimer ça davantage, à mettre plus de forme, plus de diversité. Mais le fond était là. Et à partir du moment où le fond est là, bah, t'as touché quelque chose. Je m'étais branché en tout cas sur le plus important pour moi. Et ensuite, ça s'est exprimé de diverses manières. Mais l'intérêt, je trouve, de cette musique intuitive, c'est de rentrer directement, d'avoir cette possibilité, en tout cas, de rentrer, se brancher dans qu'est-ce que ça vient réveiller au plus profond de nous. Et quand on est touché à ça, effectivement, on est dans l'enthousiasme, il y a une notion de joie, il y a une notion du fait de se recentrer, de se reconnecter à ce qui est essentiel, en fait, à l'intérieur de nous. Et ça, je trouve que le son, et le son intuitif notamment, est un excellent vecteur pour aller se rebrancher là-dessus.
Ouais, c'est chouette, là, ce que je connaissais pas, tout ce parcours-là que tu avais eu.
Mon rapport au yoga du son, ouais, c'est un rapport chaotique.
c'est hyper beau, ouais. Ouais, c'est hyper
bien. C'est sûr. Mais c'est vrai que du coup, cette notion, tu vois, c'est ce que je te disais à l'introduction, la notion de pas oser chanter, de pas oser faire de la musique parce qu'on a peur de mal faire, parce qu'on a peur du regard de l'autre, parce qu'on a peur d'être jugé tout de suite, ou même de s'auto-juger immédiatement. C'est un truc que moi j'ai vécu pendant, et j'en suis pas d'ailleurs complètement sorti, mais c'est un truc que je traîne depuis longtemps, parce que j'ai grandi dans une famille où on fait pas de musique, où on chante pas. Et du coup, ça peut être extrêmement pesant. Et en fait, c'est dommage, parce qu'on passe à côté, je veux dire, faire sonner un bol tibétain, tu vois, ou faire vibrer un didgeridoo, chanter des voyelles, c'est des trucs qui sont accessibles à tout le monde. Tout le monde est capable de faire ça. Et tout le monde est capable de prendre du plaisir et en fait d'être nourri simplement par des choses très simples. Et effectivement, dans un monde comme ça, où on est tout le temps tiré vers l'extérieur et tout le temps un peu dans ce niveau anxiogène, il y a quelque chose de très profond, en fait, dans cette simplicité.
Oui, et puis ça me fait penser à ça, c'est que... on vit dans un monde où t'as accès à portée de main à des vidéos, donc YouTube et compagnie, tout ça, en tout cas de performances, que ce soit, alors là je pense à la danse ou à la musique et tout ça, mais en fait tu peux aller voir très rapidement des trucs un peu complètement extraordinaires. Tu vois, grâce à YouTube et à toutes les vidéos, on a tout vu. Je veux dire, tu vois chaque personne qui maîtrise à fond sa discipline, qui fait des trucs de dingue, et t'es là, Ah oui, mais non, mais en fait, moi, je suis vraiment rien à côté de cette personne, quoi. C'est toujours la comparaison poison, quoi, tu vois, tout ce truc-là.
Ah,
Et ouais, du coup, je trouve que ça vaut le coup aussi c'est ça, de réussir à se dépatouiller de ça. Mais ça, c'est pareil, hein, quand tu dis que tu vois que t'as, que moi, par exemple, me définir en tant que musicien, ça fait vraiment pas longtemps que je le fais. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'en fait, t'as tous les préjugés qui sont aussi bêtes que tous les autres préjugés de la Terre. C'est-à-dire qu'en fait, quand je dis, alors on me dit, mais toi, tu fais quoi dans la vie? Ben moi, je fais du didgeridoo. Et alors, les gens sont là, ah bon, du quoi? Mais ah bon, mais on peut vivre de ce machin? Quoi, vraiment, ils comprennent pas vraiment. Et puis des fois, il y a des blancs, des silences où ils sont gênés. Ils ne posent pas de questions. Ils sont là, ben en fait, ils doivent vraiment très mal vivre parce que ça, parce que personne ne fait ça. C'est trop bizarre. Et du coup, maintenant, je peux dire, je suis musicien, tout ça. Mais pendant longtemps, je disais pas ça. Ou alors, si je disais, je suis musicien, ils disaient, ah ouais, tu joues de quoi? Bah, du didgeridoo. Ils disaient, ah ouais. Et là, tu sentais la déception du genre, mais c'est pas vraiment un instrument, tu peux pas dire que t'es musicien, ça ne marche pas. C'est vrai, je trouve, là pour le coup, c'est le partage d'expérience à titre personnel. Il m'a fallu vraiment longtemps pour me définir en tant que musicien. Et je trouve que ça, je trouve que c'est difficile, quoi. Justement, quand tu apprends la musique de manière non académique, là pour le coup, même sans dire intuitif, c'est une manière non académique. C'est-à-dire que je connais pas le solfège, ou le solfège rythmique, je le découvre un peu parce que du coup, j'écris maintenant de plus en plus mes rythmiques, mais avec ma méthode. Mais quand tu connais pas tout ça et que tu joues avec ton pote, là je pense à Pierre-Olivier avec qui je bosse, qui est le oudiste et violoniste du groupe qu'on a monté, tout ça, qui a l'oreille quasiment absolue, qui te parle de toute la théorie musicale et que moi je connais rien de une grosse partie de la théorie musicale, je ne connais pas. Et ben c'est vrai que ça peut vite complexer à dire ben en fait moi je suis pas musicien ou pas musicienne. Et ben ouais, c'est tout un boulot de réussir à se défaire de ça, de ce qu'on colle sur l'étiquette musique, de ce qu'on colle sur l'étiquette musicien musicienne, de ce qu'on colle sur l'étiquette artiste. Alors là c'est encore plus, tu vois, c'est vraiment un truc. Tu vois, tu dis, bah en fait, non, mon pote, justement, il se voit plus comme un artisan du son. Et je trouve que c'est une chouette définition de se dire, en fait, qu'on est artisan. Et que, ben oui, il y a des artisans qui vont te faire des trucs de fou, qui peuvent faire des... Et puis nous, on peut faire, quoi, en fait, nous, n'importe qui, tu vois, ben, tu commences, là, je suis en train de me renseigner sur le travail du bois, ben, tu commences avec une petite boîte en bois que tu fabriques et tout ça. Et ben ça n'enlève rien à la valeur de ce qu'on fait, quoi, ou de ce que tu fais, tout ça. Et je trouve que c'est hyper important de réussir à prendre confiance aussi dans l'approche de la musique et de se permettre de changer un peu toutes les a priori. Parce que ça va avec le truc classique, tu vois, de ne pas oser apprendre la musique parce qu'on ne se sent pas musicien ou musicienne, quoi. Moi, j'ai mis 20 ans à me sentir musicien, mais c'est, en fait, c'est surtout 20 ans de déconstruction. C'est de la déconstruction.
Ouais, tout à fait. Ouais, et puis il y a aussi la notion de trouver le point d'entrée qui parle. Tu vois, effectivement, quelqu'un qui ne fait pas du tout de musique et qui voudrait se lancer dans la musique ne penserait pas forcément didgeridoo ou comme ça de prime abord, en tout cas dans notre société. Donc le fait que toi, tu aies trouvé ce chemin d'entrée, c'est une manière qui t'a permis de prendre plaisir à découvrir, à explorer et petit à petit à rentrer dans une posture plus de musicien. Moi, ça a été le travail du yoga et du son. Enfin, je veux dire, cette expression par les chants tibétains, c'est pareil, c'est quand même un peu atypique, quoi. Donc effectivement, des fois, tu as des tout petits points d'entrée, des trucs qui vont te marquer, qui vont te faire rentrer. Et en fait, ça peut ouvrir plein de portes derrière. Mais encore faut-il faire le premier pas et oser aller explorer un truc qui, effectivement, pas forcément reconnu, pas forcément valorisé, pas forcément qui te fait pas forcément briller en société tout de suite. mais en tout cas, qui t'ouvre à toi une porte et qui, derrière, tu sais pas jusqu'où ça peut emmener. Mais c'est vrai qu'il y a ce chemin-là à emprunter. Gauthier, on va bientôt arriver au bout de l'épisode. Là, j'aimerais bien faire ressortir deux trois petites clés là pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Qu'est-ce qu'ils peuvent tirer un peu de notre discussion? Donc je compte sur toi pour m'aider à tu vois, faire ressortir un peu les faits saillants. On a parlé pas mal de sujets différents et il y a pas mal d'autres sujets dans lesquels on a juste posé un doigt et dans lesquels on pourrait rentrer encore plus en détail, mais on a parlé de la notion de cette musique intuitive comme, comme cette, ce réveil en fait de cette vibration qui nous habite tous, parce que l'être humain fait de la musique depuis la nuit des temps, donc on a tous tout ça quelque part à l'intérieur de nous, et que le fait de se reconnecter avec cette vibration profonde et de l'alimenter en fait nous aide à nous débarrasser progressivement effectivement de toutes les tous les cadres qui nous ont enfermés dans une vision de la musique pour nous reconnecter. Donc voilà, oser y aller, même si c'est quel que soit le point d'entrée, n'importe quel truc qui vibre ou qui fait un ding, une casserole qui fait un ding, ça fonctionne comme point d'entrée. Vous pouvez être un spécialiste des casseroles par exemple. J'ai certaines casseroles qui vibrent particulièrement bien. En tout cas, de trouver le point d'entrée qui vous convient et qui vient que vous sentez venir réveiller en fait cette vibration profonde. Suivez ça, c'est un bon chemin. Quel autre point, vas-y, je te laisse.
Ouais, et puis moi je trouve que c'est mais je répète ce que j'ai dit, mais c'est que c'est de, en fait, de pas, c'est vraiment facile à dire, mais de pas se prendre la tête. C'est-à-dire qu'en fait, si par exemple le chant intuitif, ça vous tente, tout ça, bah c'est ça, c'est regarder 2-3 vidéos YouTube, tu dois en avoir pas mal qui montrent un peu des bases, et puis essayer, et puis en fait. Moi, je trouve qu'il ne faut pas avoir peur de s'enthousiasmer, quitte à ce que dans un mois, bah, vous arrêtiez, c'est pas grave. Et puis que vous repreniez un autre truc, et puis jusqu'à trouver ce qui vous plaît, tout ça, quoi. C'est un peu des poncifs, ce que je suis en train de sortir, mais c'est de vous faire confiance, de se faire confiance dans le sens que... de tester, quoi. Puis d'écouter. Tu sais, on dit qu'on apprend tous à... une fois adulte, on s'est tous dessiné comme des enfants de 7 ans, ou parce que c'est à peu près à cet âge-là qu'on arrête de dessiner. Je sais plus exactement ce qu'est le truc, sauf celles et ceux qui ont continué. Et puis, et en fait, tu dis, non, mais c'est pas parce qu'on est des adultes qu'on n'a pas le droit d'y plonger à fond comme un enfant, quoi. Je reviens sur l'enfant, mais c'est parce qu'en fait, ouais. Moi, je trouve que tout ce que ça représente là, l'apprentissage de la musique intuitive, non académique, vous l'appelez comme vous voulez, et bien en fait, tout ce que ça représente là, ça représente notre capacité à nous permettre d'explorer des choses dans la vie. Alors, on l'appelle musique, là, on parle de musique, mais purée. Et de se dire, oui, en fait, on apprend tout le temps, et puis. Et je trouve que ça vaut le coup, ouais, de tester. Quoi, voilà, moi, je sais pas si ça répond trop à ce que tu disais. Si ça se trouve, je m'éloigne encore plus du sujet. Quoi,
Si, très bien. Et je complète là, j'ai deux points qui me viennent en tête. Il y a cette notion de. Il y a deux notions. Attends, ce dont tu avais parlé tout à l'heure de que tu proposes dans tes apprentissages, et c'est quelque chose qui a fait écho avec exactement les consignes que je donne pour les gens qui suivent mes formations, d'avoir des temps en fait où les deux approches ne s'opposent pas en fait, elles sont très complémentaires. Donc d'avoir des temps où on rentre dans cette dimension intuitive, justement dans cette dimension spontanée du son, et des temps où on va chercher à explorer différents points techniques un peu plus particuliers. Donc ça, c'est aussi je pense que c'est un bon conseil à garder en tête. J'avais un autre point dont je voulais parler qui me revient pas là tout de suite.
Ouais, je saurais pas. Moi, je trouve un des trucs, c'est ce qu'on a dit à la fin, quoi. C'est vraiment de laisser de côté les représentations qu'on se fait, quoi. Toute l'histoire qu'on se raconte sur nous-mêmes, quoi. On se raconte tellement d'histoires. Essayons de se raconter au moins des belles histoires, quoi. Du coup, c'est de se dire, tiens, j'ai pas fait de musique, je sais pas, pendant 50 ans. Puis là, j'ai envie de découvrir la musique. Allons-y, c'est super, mais. Plutôt que se dire « Oh là là, j'ai pas fait de musique pendant 50 ans, quelle galère d'apprendre la musique, je serais jamais fait ou faite pour ça. » Tu dis « essayons de tourner un peu les trucs, quoi, de se faire un peu du bien, surtout dans ce domaine-là où tu dis c'est quand même un temps pour soi, un temps précieux. Ouais, c'est ça, changeons un peu le disque dur, quoi. Je trouve que ça vaut le coup quand même. »
Eh bien, très bien. Et du coup, tu lis dans mes pensées, parce que mon deuxième point, c'était justement, pour être exactement dans la continuité de ça, c'est d'accepter et d'apprendre progressivement à aimer, même si c'est si possible, ce qui sort. Ce qui sort de son didgeridoo, ce qui sort de du style qu'on va donner à sa musicalité dans le didgeridoo ou dans n'importe quel autre instrument intuitif. Et a fortiori, dans son travail de voix, d'apprendre à aimer ce qui sort. Je sais que dans les formations... sur ce travail de yoga du son, les gens souvent sont redécouvrent en fait leur voix. Redécouvrent d'autres parties de leur voix, redécouvrent comment ils peuvent faire vibrer différemment leur voix. Et parfois de manière un peu surprenante, tu vois, ils ont parfois du mal à accepter ce qui sort. Ils préféraient que ça sonne différemment, ils préféraient que ça sonne plus comme moi, exactement la même chose que moi, mais c'est pas du tout cette voix-là qui va les aider à rentrer dans justement l'expression de ce qu'il y a à l'intérieur. Et dans les formations, il y a cette dimension de connexion à l'autre, voire même de cette dimension thérapeutique. Et j'ai plein de gens comme ça qui me témoignent le fait qu'à partir du moment où ils ont commencé à rentrer dans l'acceptation de ce qui sort, donc le fait d'oser laisser sortir leur voix telle qu'elle est, avec encore une fois ses qualités et ses fêlures, ben en fait ils se rendaient compte qu'elle touchait beaucoup plus les gens qui étaient en face d'eux, parce qu'il y avait une notion de résonance. À partir du moment où on accepte d'exprimer son intimité dans le sens de ce qu'il y a là de plus fragile en soi, bah, les autres en face sont directement touchés par ça. Donc dans cette dimension d'acceptation de ce qu'il y a, il y a aussi tout un chemin, effectivement, de se réouvrir à l'humanité et de se réouvrir à travers ça, se réouvrir à l'autre.
Ouais, et puis c'est un chemin qui est quand même, c'est quand même pas facile, tu vois. Quand je t'entends parler, je me dis, waouh, je m'imagine à tes stages, j'essaie de sortir ma voix et tout. Je me dis, purée, je suis bien content de faire du didgeridoo, quoi. Parce que t'as quand même l'instru derrière et tout. C'est quand même un chemin qui est pas facile, quoi. C'est quand même, c'est tout le chemin de. Tout l'acceptation de soi, quoi, tu vois, tout ce truc-là, de ce qui est maintenant et tout.
C'est sûr. Après, pour pas faire peur aux gens pour les stages, il y a cette dimension pédagogique. Justement, dans ce travail de yoga du son, comme on ne cherche pas la performance, on n'a pas besoin de chanter devant tout le monde, on n'a pas besoin d'essayer de reproduire un truc dans la justesse, peu importe. On peut chanter en groupe. Et pour autant, avoir sa propre voix dans le groupe. Et pour autant, se sentir faire partie, tu vois.
Toutes tu les m'étonnes, voix se mélangent. Donc, rassure les gens qui nous écoutent. Est-ce que parfois, tu fais chanter en groupe et tu dis « Michel, là, non, t'es pas top, là. Tu vas avance-toi au milieu du groupe, s'il te plaît, puis tu vas nous faire deux, trois vocalises.
» Écoute, normalement, je fais pas ça, mais je te promets que si tu viens à un stage, je te ferai un petit traitement en particulier.
Ben, je viendrai pas.
Non, bien sûr que non. Et c'est ça que moi, à titre personnel, j'ai apprécié dans ce travail de yoga du son. C'est qu'en fait, tu peux rentrer dedans de manière extrêmement confortable, même si tu n'aimes pas ta voix, même si tu n'as jamais chanté, tout ça.
Ouais, c'est
parce
super,
qu'en fait, tu cherches pas ça. Tu cherches à ouvrir une porte à l'intérieur de toi. Donc, il y a un côté, effectivement, où tu n'es pas du tout confronté au regard de l'autre sur ta voix. Et ça, c'est hyper confortable pour rentrer dedans.
Ouais, super. Bon, c'est bon. Tu m'as rassuré. C'est donc bon, t'as dû rassurer plus d'une personne qui nous écoute.
J'ai eu chaud. Bon, Gauthier, tu sais quoi, on va arriver à la fin de cet épisode. Ça m'intéresse quand même, vous, auditeurs, auditrices et la communauté de YouTube, partagez-nous justement votre expérience là dans les commentaires, de votre propre approche justement de cette musique intuitive, éventuellement de cette musique académique. Quel lien, quelle différence vous faites entre les deux et en quoi l'une ou l'autre peut vous a aidé, vous a accompagné dans votre vie. Ça m'intéresse justement d'aller explorer d'autres pistes autour de ce sujet-là.
Ouais, il y aurait plein de choses à explorer encore. Par exemple, le côté intuitif, est-ce qu'on pourrait résumer aussi ça avec le côté improvisé versus la musique écrite, par exemple, et tout. Ouais, il y aurait plein de choses encore. C'est vrai que je serais curieux de voir les commentaires. Et je pense que aussi, quoi, je sais pas, Olivier, là je me lance en disant ça, je prends peut-être une casquette qui n'est pas la mienne, mais s'il y a des idées de thématiques et tout ça à donner, avec grand plaisir, quoi. Moi je sais pas ce que t'en penses.
Exactement,
Olivier.
Merci Gauthier de faire cette proposition. C'est l'intérêt de ces regards croisés, c'est d'avoir des discussions et en fait. L'idée d'avoir de vision, c'est pas d'arriver à des absolus, des réponses absolues, mais bien d'ouvrir des portes et des réflexions. Donc effectivement, proposez-nous d'autres sujets de réflexion si vous le souhaitez. Et Gauthier, on se retrouve quand tu veux, prochainement,
avec
pour
plaisir,
continuer ce sujet-là ou explorer d'autres sujets. On a plein de choses qui sont possibles.
Avec grand plaisir.
Voilà. En tout cas, merci Gauthier pour ce temps qu'on a
merci
passé
beaucoup.
Ensemble. Je suis sûr que ça va inspirer des gens. Ça va. En tout cas, j'espère que ça va vous aider à rentrer dans le son de manière en vous lâchant la grappe, quoi. Juste le plaisir de vibrer, de faire sonner ce que vous avez autour de vous et de prendre du plaisir à ça. C'est le but, en tout cas. Donc, Gauthier, merci infiniment pour ce moment passé ensemble. Et puis à bientôt, du coup, pour continuer à explorer ces questions-là.
Ouais. Allez, salut tout le monde.
Bye bye.